CFM. CFM. À qui le tour ? 17h30, 19h. CFM.
À qui le tour ? La suite avec notre invité maintenant, Anne Jacquesson.
Oui, de l'association des orthophonistes mégaphonistes 82. On les avait déjà reçus il y a quelques temps. Elles étaient venues présenter leur association. Et bien voilà, Anne Jacquesson de retour pour nous présenter une action, un bébé, un livre. L'idée, c'est d'offrir des livres, mais directement à la maternité, quoi, au nouveau-né. Oui, voilà, Anne Jacquesson, bonjour.
Mais bonsoir, vous avez tout dit déjà, donc voilà. Bah, on vient offrir des livres en maternité aux tout petits.
Mais quelle idée, sert à quoi ? Parce qu'ils ne savent pas lire de toute manière.
Et justement, l'idée, c'est d'offrir des petits livres doudous et puis un petit fascicule également qui s'appelle Objectif Langage aux jeunes mamans, aux jeunes papas, pour leur expliquer l'importance de lire des livres à leur enfant, comment les aider à développer correctement le langage de leur enfant. C'est dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme pour faire en sorte que les bébés développent au mieux le langage pour ensuite apprendre à bien lire, bien écrire et puis mais que tout se passe au mieux pour eux sans difficulté.
Eh ben voilà,
parce que ça, ça prend.
Un petit peu de musique et vous allez nous expliquer tout ça. À tout de suite.
Voilà pour You Belong, Laura Gibson et The Avener.
Alors Anne Jacquesson, étant donné que vous êtes là pour nous présenter une action de prévention, qu'est-ce qui fait que dans notre société, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'illettrisme. On parle souvent de ces enfants qui rentrent au collège sans avoir les bases de la lecture et encore moins celles de l'écriture.
Il y en a de plus en plus, oui, ouais. C'est vrai. Alors, on a des études qui ne sont pas très récentes, qui datent de 86, statistiques de l'éducation nationale, qui montrent qu'il y a quand même 30% de la population scolarisée qui est en échec scolaire. Donc sur l'ensemble, hein, de petites sections jusqu'à la terminale, mais enfin c'est quand même énorme. On considère qu'il y a 10% d'une classe d'âge qui en fin de cinquième, non je dis des bêtises, 10% d'une classe d'âge qui a un maintien, un redoublement dans une classe en primaire ou en collège, et 93% de ces redoublants-là n'atteignent pas le niveau de seconde, et puis à partir de là c'est un peu la spirale infernale, quoi. C'est quand on n'arrive pas à avoir une scolarité qui tient la route, et bien on se retrouve gêné dans sa lecture, dans son écriture, on se retrouve un adulte qui n'a pas de lecture fonctionnelle, qui est gêné tous les jours dans la vie quotidienne, avec des difficultés socio-professionnelles qui en découlent, et en fait tout ça, on se rend compte que ça peut découler ou d'un trouble de la lecture de l'écriture type dyslexie, dysorthographie, ce qu'on voit souvent nous dans nos cabinets, ou de soucis dans l'apprentissage de la lecture-écriture en dehors de ces troubles-là, mais que très souvent, avant de savoir bien lire, bien écrire, ce qui compte, c'est de savoir bien parler. Donc petit à petit, on remonte, on détricote la bobine et on se rend compte que dès la naissance, il y a déjà des choses à faire pour éviter ces situations-là.
D'où l'intérêt d'aller offrir des livres à des mamans qui viennent à peine d'accoucher pour leur rappeler que c'est important dès la toute petite enfance.
Pour leur rappeler qu'il y a des choses à faire, que l'enfant, de toute façon, quand il naît, il a, a priori, sauf pathologie particulière, il a toutes les compétences pour apprendre à bien parler et ensuite bien lire, bien écrire. Mais tout ça, il faut l'accompagner. Si on laisse un enfant tout seul dans un coin, il ne va jamais apprendre à parler tout seul.
Pas facile et... si on ne sait pas soi-même écrire correctement.
Et oui, c'est compliqué. Mmh. Mais quelque part, même quand on ne sait pas lire ou écrire, on sait toujours parler. Et finalement, un enfant qui parle bien, il aura déjà les outils pour apprendre ensuite à bien lire, bien écrire. Ensuite, l'apprentissage de la lecture et l'écriture, c'est le rôle de l'école. Mais déjà, un enfant, s'il ne sait pas bien s'exprimer, s'il n'a pas compris comment fonctionne la langue parlée, on ne peut pas lui demander de savoir lire et écrire, c'est trop compliqué. Donc avant même l'apprentissage de la lecture et l'écriture, c'est tout le rôle aussi de la maternelle. Il y a plein de choses à faire pour apprendre à développer un bon langage, à savoir vraiment manier la langue, et puis jouer avec les sons, jouer avec les syllabes, jouer avec les mots.
L'idée d'offrir un livre, c'est que ce soit aussi un objet familier, oui, qu'on puisse l'avoir autour de soi.
Un objet de plaisir, surtout.
Parce que souvent, on dit ça, on dit que si on a des livres autour de soi, alors on lira plus facilement.
Et on est plus enclin à lire. Après, le modèle, c'est avant tout le modèle des parents. C'est sûr qu'un enfant qui lit qui vit dans une famille où il y a des livres, où les parents lisent, où le grand frère, la grande sœur a sa petite histoire du soir, où lui-même a pris l'habitude d'avoir la petite histoire du soir, de se retrouver dans des chouettes moments avec ses parents ou ses grands frères, grandes sœurs à lire un bouquin, et bien forcément ça donne aussi l'envie d'apprendre à lire, à écrire. C'est beaucoup plus facile d'apprendre aussi à bien parler quand on est en communication avec les autres que quand on est tout seul devant une télé ou dans un environnement où il n'y a pas de livre ou pas de gens qui discutent. Parce qu'un livre, quand on est un parent et qu'on lit un livre à son enfant, on lui lit un livre mais on parle avec lui. Donc il y a aussi tout ce jeu d'échange qui se fait avec le bébé, des moments de plaisir, des moments de partage, et tout ça, ça favorise aussi l'émergence d'une bonne communication et ensuite d'un bon langage.
Mais alors aussi, vous parlez quand même de prévention, donc de dépistage. Oui. À quel moment et comment on peut se rendre compte que notre enfant, il a des difficultés à la lecture? C'est pas avec le petit livre là que vous
non,
offrez cette semaine, parce
non.
que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de lettres dans celui-ci.
Ah, il est mignon comme tout, j'ai pas pensé à vous en amener, hein, c'est dommage, mais c'est une petite histoire toute mignonne, c'est un livre très coloré. Pour l'instant, c'est juste l'objet livre, c'est juste pour montrer que voilà, un livre, ça peut être un truc sympa, c'est pas forcément un gros pavé avec plein de petits symboles noirs sur des grandes feuilles blanches sans images, hyper pénible. C'est vraiment un petit truc sympathique. Après, de toute façon, on ne peut pas dépister un problème d'apprentissage lecture-écriture tant que l'enfant n'a pas commencé à apprendre. Et puis encore une fois, quand il est en train d'apprendre au début du CP, s'il n'y arrive pas, bon, on peut lui laisser un peu de temps aussi, parce que c'est un peu vache de lui dire, bah, c'est comme si vous appreniez une nouvelle langue et puis au bout de 3 mois, on dit, comment ça, t'es pas bilingue? Bon, ouais, ça va pas du tout, il y a un problème. Non, c'est pareil, il faut laisser le temps aux enfants d'apprendre. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que généralement, les enfants qui développent une dyslexie, qui ont vraiment un trouble du langage écrit, très souvent, ils ont eu plus petits des difficultés au niveau de l'apprentissage du langage. Donc d'emblée, un enfant qui, à l'entrée, à l'école, enfin à 3-4 ans, ne sait pas faire de petites phrases, un enfant qui, vers 4-5 ans, vraiment, on a du mal à le comprendre, et puis on sent qu'il y a des choses comme ça, que la communication n'est pas facile, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se dire « Oh, ça viendra, ce n'est pas grave ». On connaît toujours le fils de la boulangère, de la belle-sœur qui ne parlait pas à 6 ans, puis ça s'est réglé. Oui, ben on ne va peut-être pas attendre, parce que ce serait dommage de passer à côté.
Donc si on va consulter un orthophoniste.
On va d'abord voir son médecin, parce que c'est le médecin qui dit s'il y a besoin ou pas d'aller voir une orthophoniste et qui fait une prescription surtout. L'orthophoniste, elle a besoin d'une prescription médicale pour faire le bilan. Et le médecin va dire bah déjà de contrôler que l'enfant entend bien et voit bien, c'est déjà le premier critère. Et puis ensuite, s'il y a besoin, oui, faire un bilan orthophonique pour ne pas passer à côté de quelque chose. Il vaut mieux faire un bilan pour rien que de passer à côté de quelque chose qui peut s'installer.
On est en train de discuter avec Anne Jackson, orthophoniste de l'association des mégaphonistes 82, un petit peu de musique. Et puis on continue de parler notamment de cette opération. Un bébé, un livre. Toute cette semaine, les mégaphonistes 82 distribuent dans les maternités des livres aux mamans. Mais c'est pour les enfants.
Et on se retrouve après la pub.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Liquidation totale du stock chez Meubles Massifs Affaires, 38 rue Voltaire à Montauban. Tout doit disparaître. Liquidation totale sur l'ensemble du stock avant fermeture. En ce moment et jusqu'au 15 décembre, des affaires par centaines, des prix hallucinants et des réductions sur des prix déjà très bas. Liquidation totale de plus de 1000 meubles en tout genre, que du massif artisanal. Jusqu'au 15 décembre, ne manquez pas la liquidation totale de votre déstockeur Meubles Massifs Affaires. Ouvert du lundi après-midi au samedi soir, 9h30, 12h, 14h30, 19h.
Le grand rendez-vous annuel du Salon des vins et produits régionaux de Moissac, organisé par les amis de l'îlot Caillavet. C'est au Hall de Paris les 19 et 20 novembre. Préparez vos papilles. Venez déguster les fabuleux vins et produits de nos régions. Toute la journée, des animations et de nombreux lots offerts par les producteurs sont à gagner. Le 17e Salon des vins et produits régionaux de Moissac. Ambiance garantie les 19 et 20 novembre. Entrée gratuite de 9h à 19h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Vous souhaitez réduire votre facture énergétique, mais vous ne souhaitez pas investir? Vous voulez recevoir des informations, des conseils pratiques, adaptés et faciles à mettre en œuvre? Alors le défi Familia Énergie Positive est fait pour vous. Inscrivez-vous sur le site famille-a-énergie-positive.fr et choisissez le défi du pays Midi-Quercy. Puis, une équipe et quelques actions parmi 100. Et le 1er décembre, c'est parti. Tous les 15 jours, je relève mes consommations et le 31 avril, c'est gagné. Organisé par le pays Midi-Quercy, plus d'infos au 05 63 24 460 64.
Rugby Pro D2, vendredi 18 novembre à 20h, ça sent bon le derby à Sapiac avec l'US Montauban face au Sporting Club Albigeois. Montauban, Albi, c'est vendredi 18 à 20h. Dès maintenant, réservez vos places et retrouvez l'actu du club sur www.usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7.
Anne Jackson, est-ce que vous pourriez nous présenter à nouveau, s'il vous plaît, les mégaphonistes 82?
Alors, l'association est née l'année dernière, elle est toute belle, toute nouvelle encore. C'est une association de prévention en orthophonie, donc ça regroupe les orthophonistes qui le souhaitent de la région du Tarn-et-Garonne. Et on se regroupe déjà pour pas mal d'actions de prévention. Donc là, il y a un bébé, un livre dont on parlait à l'instant. On participe également à l'association, avec l'association France Parkinson, à présenter l'importance de la prise en charge orthophonique avec les patients atteints de cette maladie. On a également un projet d'atelier langage avec le CAMS de Montauban, les PMI, enfin voilà, on a plein d'actions comme ça de prévention, d'information. Également des rencontres entre orthophonistes de la région autour de formation ou d'échange des pratiques pour avancer dans notre pratique professionnelle. Et puis voilà, mais c'est plutôt chouette, on est content, ça se passe bien. On était venu présenter l'année dernière et vous nous aviez dit de revenir quand on voulait. Ben, fallait pas le dire deux fois, quoi. Ça y est, nous revoilà.
C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau autour de ce dispositif, un bébé, un livre. Donc ça se poursuit hein, toute la semaine. On aura l'occasion d'en refaire l'écho sur CFM Radio, notamment notamment par l'intermédiaire de Mathieu qui viendra faire un reportage. C'est d'abord les enfants, le public des orthophonistes, ou c'est aussi finalement les adultes, voire les personnes âgées.
C'est de plus en plus vaste. En fait, le champ d'intervention des orthophonistes est extrêmement vaste et il ne cesse de s'enrichir.
C'est un métier qu'on a un peu du mal à cerner parce que on se dit c'est des gens qui nous réapprennent à parler quand on a eu par exemple un accident de la route.
C'est déjà pas mal d'avoir cette vision-là parce que souvent les gens pensent qu'on est là pour aider les enfants qui ont du mal à parler, à lire, à écrire. Ouais. Et c'est un peu réducteur puisqu'en fait on s'occupe de tous les problèmes de communication et également d'alimentation. Quelqu'un qui a du mal à manger, que ce soit un tout petit qui a du mal à téter ou quelqu'un qui a eu une chirurgie du larynx, une dysphagie chez les personnes âgées, on s'en occupe aussi. Donc en gros, dès qu'il y a un problème de communication, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit un tout petit, une personne âgée, un adulte, un enfant, c'est pour nous.
D'accord.
On y va quoi, et on est content.
Est-ce que justement il y a des personnes qui à partir d'un certain âge éprouvent des difficultés de façon naturelle comme ça,
oui, qui viennent ça arrive. De toute façon il y a aussi tout ce qui est problème de surdité, ouais, qui peuvent arriver avec l'âge. Après beaucoup moins rigolo les maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, les scléroses aussi latérales amyotrophiques, tout ça. Enfin c'est énormément de public concerné, mais c'est vrai que souvent quand on a un adulte que le médecin nous envoie parce qu'il a un problème de voix ou parce que il a du mal à s'alimenter, parce qu'il a eu un cancer du larynx ou quelque chose comme ça, ils arrivent dans notre bureau et première chose qu'ils nous disent c'est alors là je pensais pas un jour voir une orthophonie, je pensais que c'était que pour les enfants. Mais bon, voilà, c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de notre métier. Alors il y a des orthophonistes qui travaillent en hôpitaux, des orthophonistes qui travaillent en structure où là c'est un peu plus spécialisé, forcément ça s'adresse à un public bien particulier, mais en libéral, on s'occupe de toutes les pathologies qui nous concernent, quoi. Donc, sur prescription médicale, toujours. Donc, il y a toujours un médecin derrière tout ça.
Il y a toujours un médecin derrière tout ça. On ne vient pas vous voir. Vous n'êtes pas une spécialiste qu'on peut venir voir en direct.
Non. Il faut une prescription médicale. Donc, il faut passer par le médecin et c'est lui qui dit allez voir une orthophoniste ou allez voir d'abord un ORL, etc. Mais on agit sur prescription médicale.
D'accord. Un petit peu de musique et puis on revient en conversation dans un instant avec Anne Jackson, orthophoniste. Vous êtes installée où, vous, à Montauban ?
À Montèche, et je travaille à Montauban, à l'hôpital et au CAMS de Montauban.
Combien il y a de mégaphonistes ? De mégaphonistes,
je dirais qu'on est une vingtaine.
Une vingtaine ?
Ouais.
Take your time, let it go, I know it's on your mind. Take it slow when it feels right, it's right. Free your soul, give in to the fight. Know that it's waiting for you, 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 know that it's waiting for you. It's waiting, hold on. So hold on. So hold on. So hold on. You can look for the signs, just don't be afraid. Close your eyes, let it go and leave it all behind. It's all so simple, it's just in your mind. Know that it's waiting for you, 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 know that it's waiting for you. It's waiting for you, know that it's waiting for you, it's waiting. Place the blame, but it won't change anything.
Par le Californien Rivers. Retour en studio avec notre invité encore pour quelques minutes, Anne Jacquesson de l'association Mégaphoniste 82.
Oui, elle est orthophoniste, alors on va en profiter pour apprendre des choses. Tiens, à partir de quel âge un enfant doit-il savoir lire? Et voilà, ça c'est la première question.
Théoriquement, à l'apprentissage au CP. Donc au CP, on apprend à lire, à écrire. Et le programme scolaire, je crois que c'est cycle 1, donc CP-CE1. À la fin du CE1, il doit savoir lire, comprendre ce qu'il lit.
C'est 6 ou 7 ans, ça?
Oui, 6-7 ans.
6-7 ans. Est-ce que vous rencontrez parfois des enfants qui, avant cet âge-là, savent déjà lire?
Oui, ça arrive.
Il y a des enfants qui apprennent tout seuls?
Ils apprennent jamais vraiment tout seuls, parce qu'en fait, la maternelle prépare déjà l'apprentissage de lecture et d'écriture. Donc, ils jouent beaucoup avec les sons, ils apprennent à reconnaître les mots qui riment, etc. Et puis, ceux qui sont prêts, ils percutent assez vite que, on entend pareil. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres à la fin. Et puis, moi, je m'appelle, Jonathan, ça commence par un J, le J fait jeu et hop là ça y est c'est parti, ça se met en place tout seul quoi. De là à dire qu'ils ont une lecture où ils vont prendre un Victor Hugo et puis le potasser tout seul dans leur lit, j'ai du mal à y croire, mais il y en a qui se débrouillent déjà pas mal avant d'entrer au CP. Mais normalement, physiologiquement, les petits d'hommes là, ils sont prêts à lire vers 7 ans.
Vers 7 ans, ouais. D'accord. Si on est un petit peu en retard, c'est quoi? C'est 8 ans, 9 ans, c'est pas très grave?
C'est pas forcément
ans,
très grave.
Ça commence à faire, non?
Ça commence à faire. Après, il y a plein de niveaux, c'est-à-dire que quand on parle de problème de lecture, ça veut dire est-ce qu'on parle de pas savoir déchiffrer, ou bien est-ce que ça veut dire qu'on a su lire mais pas comprendre ce qu'on a lu, ou est-ce qu'on a lu, on a compris, mais on n'en retire pas grand-chose? Enfin, il y a plein d'étapes, en fait, dans la lecture. C'est pas seulement savoir dire les mots et reconnaître les lettres. Après, c'est compliqué parce que souvent, on parle en âge scolaire. Et puis c'est les enseignants les premiers qui vont pointer une difficulté dans la lecture et l'écriture, mais on doit distinguer les retards et les troubles, c'est-à-dire qu'un enfant qui a besoin d'un peu plus de temps que les autres, qui a un petit retard, qui en CE2 achoppe encore un peu sur les mots, a du mal à tout comprendre ou à lire un grand texte, si c'est juste un retard, c'est pas dramatique. Si on est dans le cadre d'un trouble, donc c'est là qu'on parle des dyslexies, dysorthographies, là en effet ça peut pas se régler tout seul et il faut des aménagements, il faut des aides adaptées, il faut qu'avec l'orthophoniste l'enfant apprenne à compenser ses difficultés. C'est un fonctionnement neurologique, en fait, la dyslexie.
Alors voilà. Et voilà. Voilà ma question, vous l'avez compris. C'est quoi
c'est
la
quoi
dyslexie?
Donc, alors, j'ai pas de petit schéma pour faire
comme
ça. Parce
que tout le monde dit mais moi j'étais pas bon à l'école parce que j'étais dyslexique. Alors, tout le monde dit ça.
Alors, déjà, dire j'étais dyslexique, c'est forcément un petit peu faux parce que quand on est dyslexique, on l'est toute sa vie. Être dyslexique, c'est comme être myope. C'est un mode de fonctionnement. C'est notre cerveau qui fonctionne d'une manière un peu à part. Ça veut pas dire que c'est moins efficace ou plus efficace, mais ça correspond pas à ce qu'on demande, quoi. À l'école, en tout cas, et puis dans la vie quotidienne. Ils ont une méthode. Une façon très particulière d'appréhender la lecture et l'écriture. Donc, il faut compenser. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent toujours l'itinéraire bis au lieu de prendre l'autoroute, quoi. Donc, il faut leur apprendre à compenser tout ça pour arriver à une lecture et à une écriture aussi efficace qu'un autre, mais il sera pas passé par les mêmes chemins. Donc ça, c'est la différence un retard.
Ça fait quoi? Ça fait des problèmes de concentration? Ou
pas
ça
forcément.
Fait parce qu'on essaye d'imposer à cette personne qui fonctionne pas pareil un mode de fonctionnement qui ne lui va pas?
Mais c'est compliqué. De toute façon, après, si on avait trouvé une méthode de l'apprentissage à lecture et d'écriture qui conviennent à tous les enfants, quel que soit leur fonctionnement, je pense que quelqu'un aurait déjà mis le doigt dessus et on aurait déjà diffusé dans toutes les écoles. Mais ça n'existe pas. Et c'est toute la difficulté pour prendre en charge les enfants qui présentent une dyslexie, une dysorthographie, c'est qu'il n'y a pas une dyslexie, il y en a plein de types différents en fonction des voies de lecture qui sont touchées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les grandes composantes neuropsy, mais il y en a plein.
On parle souvent de ceux qui inversent les syllabes, qui disent les mots à l'envers, par exemple.
Il y a ceux qui confondent les lettres qui se ressemblent. Il y a ceux qui collent les mots entre eux, savent pas les découper. Enfin, il y a plein de difficultés. Ou il y a des enfants qui vont très bien savoir déchiffrer des mots réguliers, enfin qui ont pas de, je sais pas, lavabo, des choses comme ça. Mais quand c'est des mots un peu compliqués, femme, oignon, des noms propres, là ça y est, ils sont perdus, ils savent plus du tout le faire parce qu'ils ont pas la bonne voie de lecture pour le faire. Donc faut trouver un autre moyen là, faut compenser.
C'est facile, on y arrive facilement, enfin grâce à un orthophoniste,
évidemment,
une orthophoniste,
parce que les orthophonistes sont tous tout à fait merveilleux.
D'orthophonistes femmes.
Oui. 96% de femmes. Donc, on va dire une orthophoniste, mais bon. Ça dépend toujours déjà de l'investissement du patient, de l'intensité de ses troubles, et puis aussi de l'alchimie qui se passe entre le patient et l'orthophoniste, et puis du travail de tout le monde, quoi. C'est-à-dire que si on a... Moi, j'ai parfois des grands ados qui viennent me voir parce qu'ils ont toujours leur dyslexie qui est là. Bon, quand ils arrivent à l'âge du poil dans la main, ça devient un peu plus compliqué d'avancer, ouais. Mais ou bien quand on sent des enfants, au contraire, qui sont très curieux, qui sont vifs, qui ont envie d'apprendre plein de choses, mais qui sont bloqués à cause de ça et qui en ont conscience. En général, ils s'emparent très très vite des outils qu'on peut leur donner et puis ça marche. Par contre, il faut beaucoup informer les parents, l'école pour adapter.
C'est-à-dire qu'il faut pas se dire oh mon Dieu, mon fils est dyslexique, c'est un handicapé.
Non, pas du tout. Quand même pas.
Le temps que le dossier se fasse, tu sais.
Je faisais la comparaison avec la myopie tout à l'heure. Mmh. Quand on est myope, on va mettre des lunettes, quoi. Ouais. Et puis voilà. Quand on est dyslexique, on fait une rééducation orthophonique, on apprend à compenser. Et puis, au bout d'un moment, tout rentre dans l'ordre. On a un fonctionnement un peu différent, mais tant que ça reste fonctionnel, tout va bien.
Ça ressemble à quoi une rééducation orthophonique?
Alors, c'est compliqué parce que, comme justement, il y a plein de dyslexies, plein de formes différentes, plein de degrés de sévérité différents. Et puis qu'avant tout, on a des personnes différentes en face de nous. Le principe de la rééducation, c'est justement de construire une méthode personnalisée, adaptée à la personne en face de nous.
Donc au départ, il faut commencer par connaître cette personne.
On a plein de tests où on s'amuse beaucoup. Ça, c'est la partie pas rigolote quand les enfants viennent pour un problème de lecture d'écriture. C'est qu'il faut commencer par faire un bilan orthophonique avant de mettre en place une prise en charge. Et là, il n'y a pas, il faut les faire lire, il faut les faire écrire. Donc là, ils nous adorent. Ils arrivent, on commence à dire « Allez, on va faire une dictée. Youhou, c'est la fête. » Mais bon, on leur explique, c'est le seul moyen pour nous de voir comment ils se débrouillent. On regarde plein d'autres choses. Et justement, on regarde aussi leur niveau de langage oral pour voir est-ce que les difficultés qu'ils ont en langage écrit, c'est à cause de problèmes en langage oral au départ ou est-ce que c'est autre chose? Mais il y a plein de choses qu'on doit regarder et puis on va chercher surtout quelles sont les forces, les compétences de cet enfant-là, sur quoi on va s'appuyer pour construire avec lui un moyen de contourner le problème.
Étant donné leur écriture, est-ce que tous les médecins sont des dyslexiques?
Ils sont peut-être dysgraphiques, mais bon, heureusement maintenant ils ont tous un ordinateur, donc on est sauvés.
Non mais blague à part, ça vient d'où qu'on écrive correctement ou qu'on écrive mal?
Là encore une fois, il y a plein de causes différentes. Déjà, alors écrire mal, quand les gens disent on écrit mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que c'est l'écriture qui est pas belle? Ou alors est-ce que c'est il fait beaucoup de fautes? C'est encore compliqué. En plus des fois, mais comme ils écrivent mal, on voit pas qu'il y a des fautes, donc comme ça on n'en parle plus. C'est pareil, il y a plein de raisons. Alors souvent quand c'est uniquement un problème de graphisme, nous on va plutôt réorienter vers un psychomotricien, donc c'est plus la partie de vraiment gérer comment est-ce qu'on organise les gestes graphomoteurs, donc comment est-ce que le cerveau donne les informations musculaires pour bien faire les tracés, etc. On peut aussi envoyer chez l'orthoptiste, parce que parfois des problèmes de graphisme, ça peut être dû à des problèmes de vision, de bien gérer comment est-ce qu'on se positionne sur la feuille, etc. Donc c'est vraiment, on travaille main dans la main avec plein d'autres professionnels.
D'accord. Sinon, hop, c'est l'instituteur et puis on fait des lignes.
Ah ouais, mais bon, là, ça peut marcher. Mais c'est vrai que les enseignants, maintenant, ils n'ont plus vraiment la possibilité de faire du soutien scolaire comme c'était avant avec les RAZ et les enseignants spécialisés. Ils sont plus en difficulté maintenant pour ça.
Ouais. Anne Jackson, les Mégaphonistes 82, vous avez un site internet, quelque chose comme ça?
Un site internet, on a une page Facebook, donc Mégaphonistes 82. Et où on diffuse un petit peu des informations sur les actions de l'association, mais aussi sur des tas d'articles, de revues de presse, sur des sujets qui nous semblent intéressants pour les orthophonistes et pour toutes les personnes concernées.
La suite de la deuxième édition de Un bébé, un livre en Tarn-et-Garonne.
On va continuer. Hein.
Demain,
à la clinique des Ponts de Chaume et puis on espère toutes les années à venir aussi.
Merci beaucoup Anne Jackson d'être venue en parler sur CFM Radio.
À bientôt.
À bientôt.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM 17h30, 19h, à Kultour, la vie des pays.
On joue dans quelques instants, c'est ça?
Dans 5 minutes, juste après le journal, au 05 63 930 020, à de suite.
Info. CFM, les infos.